Bonjour à tous et bienvenue sur ce guide audio pour le calcul scientifique avec Python 3. Ce guide est constitué de 5 pistes audio qui accompagnent les 5 fichiers PDF correspondant respectivement aux 5 parties de cette introduction au calcul scientifique sous Python. La partie 1 constitue l'introduction et les généralités sur Python. La partie 2 vous donne beaucoup d'informations sur les bases de Python pour pouvoir écrire des programmes simples Python. La partie 3 s'attache à traiter plus spécialement ce qui concerne la lecture des fichiers ASCII et le tracé des courbes. La partie 4 concerne principalement les modules NumPy et SciPy. Et la partie 5 est intéressante pour ceux qui veulent aborder le développement orienté objet sous Python. Alors nous allons commencer avec la première partie qui correspond au fichier PDF Python 3-1-introduction. On va voir dans cette première partie donc ce qui concerne l'introduction et la prise en main de Python. A priori, vous n'aurez pas de manip particulière à faire sur votre ordinateur. Tout ce qui est installation de Python sera vu dans un document spécial que nous aborderons ultérieurement. Bien, je pense que vous avez tous sous les yeux les diapos du calcul scientifique avec Python 3. Donc cette première partie constitue une introduction et une prise en main. Et je vous invite à afficher la diapo 2. Alors cette diapo, c'est pour dire quelques généralités sur Python, qui est un langage de programmation relativement vieux, puisqu'il a été proposé dans les années 90 par Guido von Rossum. Le nom de Python est bien lié à la série Monty Python, puisque vous savez que les informaticiens sont souvent des joyeux geeks qui aiment bien faire de l'humour. Python est un langage interprété, contrairement à des langages compilés comme le C++ ou le C#. Il est donc plus facile, plus intuitif à prendre en main. Alors on dit de Python que c'est un langage multiparadigme, ça veut dire qu'en fait il supporte plusieurs styles de programmation. Programmation impérative, ifs and else, procédurale avec l'utilisation de fonctions, mais aussi orienté objet, et ça on aura l'occasion d'en parler dans les détails. C'est un langage multiplateforme pour Linux, macOS, Windows, et donc vous pourrez l'installer, et il est libre et gratuit, vous pourrez l'installer sur vos ordinateurs portables, principalement distribué sous la licence PSF, le Python Software Foundation, qui est une licence compatible avec la GNU Public License. Tout ça sont des licences open source qui sont assez connues dans le monde informatique. Voilà, je passe à la diapo suivante, la diapo 3. Alors Python est un langage très polyvalent qui tire sa polyvalence des innombrables modules qui couvrent des domaines très variés. Principalement, on va utiliser nous les modules NumPy pour l'algèbre linéaire, SciPy pour le calcul scientifique, Matplotlib, le tracé de courbe, OS pour la manipulation et la circulation dans l'arborescence des répertoires et des fichiers, mais il en existe des milliers. Python possède une communauté d'utilisateurs très active, c'est ce qui fait son charme aussi, et il est assez simple à prendre en main, de plus en plus utilisé en recherche, enseignement, industrie. En fait, il est enseigné au lycée depuis déjà pas mal d'années, et il est au programme des classes de prépa depuis la rentrée 2013. Voilà, alors on peut citer comme acteurs majeurs du monde industriel qui utilisent Python, la NASA, Google, YouTube par exemple, qui est entièrement programmé en Python, etc. Et il y en a énormément. Je passe à la diapo 4. Alors sur cette diapo, on va parler d'un aspect donc fondamental de Python, qui est l'interpréteur Python. En fait, cet interpréteur Python, c'est lui qui va faire tout le travail sur votre machine. Il est écrit en C. Il est compilé et donne un exécutable pour macOS, Windows, Linux, et c'est ce qui explique que Python peut être utilisé sur toutes ces plateformes. Les principaux points d'entrée de l'interpréteur, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, c'est éventuellement la console, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit écran, un petit terminal, on appelle ça une console, dans laquelle on lance l'interpréteur Python. À ce moment-là, on voit ce qu'on appelle le prompt. C'est-à-dire Python nous montre qu'il est présent. Si on appuie sur la touche entrée, on voit les trois petits chevrons, là, les trois signes supérieurs qui se remettent à la ligne. Et on peut, à la suite de ces trois chevrons, taper des commandes Python. Ces commandes sont interprétées par l'interpréteur, donc il fait une analyse syntaxique de ce que vous avez tapé et il va produire en sortie les effets attendus qui sont des résultats de calcul avec un affichage textuel ou graphique. Si on a fait des tracés de courbe avec Matplotlib, on aura une sortie graphique. Une autre façon de donner des entrées à Python, c'est de lui faire interpréter un fichier source. Alors, souvent on va dire faire exécuter un fichier source. Le mot exécuter n'est pas le meilleur. Normalement, l'interpréteur Python, il interprète le contenu d'un fichier source. Donc, il ouvre le fichier, il le lit ligne par ligne. Il fait la même analyse que si vous aviez tapé les mots au clavier. Mais là, il trouve toute son entrée dans un fichier qui contient du code Python. Et là aussi, ça va donner des sorties qui sont soit des caractères affichés à l'écran, soit des résultats de calcul, soit des courbes graphiques et toute autre forme d'action, accéder à du réseau, créer des fichiers, etc. Enfin, ça dépend de ce que contient votre programme. Alors sur la diapo, vous voyez également que l'interpréteur Python comporte une fonctionnalité dite par abus de langage compilateur. En fait, c'est vraiment un pseudo-compilateur qui est capable de traduire le contenu d'un fichier source Python en un langage interne propre à l'interpréteur qui lui permet de stocker une fois pour toutes le résultat de l'analyse syntaxique de ce qu'il y a dans le fichier. Et par exemple, si vous avez créé une boucle avec un corps de boucle un petit peu important, ça lui évite d'être obligé de réinterpréter le contenu du corps de boucle à chaque tour de boucle. Là, il a fait le travail une fois pour toutes et il peut ranger ça dans un fichier qu'on appelle un fichier pseudo-compilé, donc qui ne contient pas des caractères mais qui contient ce qu'on appelle du bytecode. Donc ce sont des octets que Python va pouvoir manipuler plus rapidement que le code source du fichier .py parce que le travail d'interprétation aura déjà été fait. Donc attention, sur la diapo 4, quand vous voyez marqué compilateur, en fait c'est vraiment de la pseudo-compilation et le résultat de cette pseudo-compilation en général est rangé dans des fichiers .py qu'on pourra voir apparaître dans l'arborescence de votre ordinateur et qui montre qu'à ce moment-là, un fichier source a été interprété sous forme de bytecode. On peut, de façon anecdotique, si on a perdu un fichier .py mais qu'on a le fichier .pic, on peut tout à fait faire fonctionner l'interpréteur Python avec un fichier .pic. C'est d'ailleurs une des façons de donner à quelqu'un un fichier dont il ne verra pas le code source, parce que le .pic contient du charabia pour l'œil humain et des choses très intéressantes pour Python. Et si vous donnez à quelqu'un un fichier .pic, il peut exécuter l'équivalent du programme Python, mais il ne verra pas le code source. Voilà, au final, donc les deux outils importants pour travailler avec Python, au moins dans une première approche, c'est l'interpréteur et un éditeur de fichiers qui permet de faire des fichiers .py. Par la suite, on verra avec les cahiers ePython, ce qu'on appelle aussi les Jupyter Notebook ou les Jupyter Lab, qu'il existe aussi une autre façon de travailler du Python, et ça fera l'objet d'une séance de travail spéciale. Je passe à la diapo 5. Cette diapo montre la documentation officielle du site python.org. Notez sur les diapos, comme la diapo 5 en haut à droite, vous avez le texte doc.python.org qui apparaît en couleur chocolat. Il s'agit à chaque fois d'un hyperlien, et si vous cliquez dessus, ça va ouvrir votre navigateur à l'adresse indiquée et vous allez obtenir la page qu'on voit sur la diapo 5. Cette page montre la doc de Python 3.8, c'est la version stable actuelle. Vous voyez dans le panneau à gauche que vous pouvez choisir d'autres versions de Python, Python 3.5, 3.6, 3.7. Et également, en haut à gauche, vous pouvez choisir la langue. Donc vous pouvez lire la documentation soit en anglais, ce qui est bon pour le TOEIC, soit en français. Alors deux liens sont particulièrement intéressants sur cette page, c'est le lien tutoriel que vous pourrez consulter. Et aussi dans le panneau en bas à gauche, vous avez le Beginner's Guide qui est un lien aussi intéressant à suivre si vous avez envie d'approfondir l'introduction à Python. Passons à la diapo 6 pour dire un mot sur ePython. Alors ePython, c'est une version améliorée dans le sens de l'interactivité de l'interpréteur Python. Et il va vous proposer des interactions avancées avec le système d'exploitation. On va disposer de commandes qu'on appelle les magic commands, qui correspondent à une syntaxe où tous les mots commencent par le symbole %. On aura l'occasion de voir ça plus tard. La différence principale entre Python et ePython visuellement, c'est que les trois chevrons de Python sont remplacés par des étiquettes in-out. In, c'est la cellule d'entrée, c'est là où on tape une commande Python. Et quand on fait interpréter la commande par Python, on obtient une cellule out qui contient la réponse. De façon assez intéressante, ePython peut être utilisé dès qu'on veut faire du calcul parallélisé, puisqu'il offre une prise en charge du parallélisme assez bien intégrée dans le module. Et puis, il faut savoir quand même que ePython, c'est l'interpréteur que vous utiliserez avec les cahiers ePython, qu'on appelle aussi des notebooks Jupyter. C'est pas du Python qu'on a avec les trois chevrons dans les cahiers, c'est vraiment du ePython. À part ça, il n'y a pas d'autre différence entre Python et ePython. Passons à la diapo 7, où on voit le download qui est proposé par le site python.org. Alors il faut savoir que le site python.org, dans sa page de download, ne propose que l'interpréteur Python, plus les modules de la Standard Library, qui sont en grand nombre, qui permettent de faire beaucoup de choses, mais il nous faudra des modules supplémentaires. Ce qui fait qu'on utilisera un installateur de la distribution Python, comme Anaconda, pour obtenir Python, les modules de la bibliothèque standard, et d'autres modules qui seront finalement préinstallés, comme NumPy, Matplotlib, SciPy, et qui nous seront très utiles pour tout ce qui est calcul scientifique et tracé de courbe. Dans la diapositive suivante, la diapo 8, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on obtient quand on fait le download avec le python.org. Donc c'est toute la partie qui est colorée en vert. Donc au milieu, vous voyez qu'on a l'interpréteur Python avec ses principaux constituants qui sont des mots-clés, des keywords comme for, if, import, qu'on verra plus tard en étudiant la syntaxe de Python. Des built-in functions, qu'on appelle aussi les fonctions intrinsèques, qui sont très 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 utiles pour faire énormément de traitements sur les données. Et puis tous les built-in types, donc les types prédéfinis, int, float, str, donc entier, flottant et chaîne de caractères, ainsi que les opérateurs du langage. Donc ça, c'est le cœur de l'interpréteur Python. Et puis vous voyez une première couronne verte, qui est constituée de la bibliothèque standard, avec beaucoup de modules, JSON, CSV, Zipfile, Maths, OS, Time, etc., qui permettent de faire beaucoup de traitements et d'écrire des programmes Python qui sont assez puissants parce qu'ils utilisent justement toute la puissance et la souplesse de ces modules. On verra dans la suite de la formation comment on se sert de ces modules, comment on les importe, et pour pouvoir s'en servir dans un programme Python. Et vous voyez qu'il y a encore un anneau marron plus externe qui constitue tous les autres modules Python qui ne sont pas dans la bibliothèque standard, qui sont tous regroupés sur un site qui s'appelle pypy.python.org et qu'on va pouvoir installer avec des commandes spécifiques comme la commande pip install ou la commande conda install qu'on verra plus tard aussi. Et parmi ces modules, on trouve NumPy, SciPy, Matplotlib, et on voit donc que quand on installe Python avec le download de python.org, eh ben on n'a que la partie verte, donc on n'a pas NumPy, SciPy, Matplotlib, et on est obligé de les rajouter à la main. Donc soit on sait faire, c'est-à-dire soit on sait se servir des commandes pip install ou conda install, soit on utilise un installateur complet, comme conda, mais il y en a plein d'autres, hein, qui vont downloader des gigaoctets de données, parmi lesquels vous allez trouver toutes ces milliers de modules, dont certains sont très utiles et dont certains sont très inutiles. Donc en fait, C'est quand même assez intéressant de savoir installer à la main les modules dont on a besoin. Alors la diapo 9 justement aborde ce thème. La plupart des modules Python qu'on peut installer en plus de la distribution de base sont sur le site pypy.python.org, qui est le dépôt officiel des modules Python. Comme vous le voyez là sur cette copie du site, il y a énormément de projets et de modules Python, ce qui explique d'ailleurs le succès de Python actuellement dans les développements informatiques, puisqu'il y a des modules pour tout faire, pour faire la cuisine, pour faire du traitement orthographique, grammatical, du calcul scientifique, des réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle, du traitement des données, il y a absolument tout. L'installation d'un module se fait toujours en tapant une commande dans un terminal. En gros, la commande, c'est soit pip install le nom du module, soit conda install le nom du module, si vous avez une distribution Python installée avec Anaconda, ce dont on discutera un petit peu plus tard. Dans certains cas, sur les machines Linux ou macOS, il peut être utile ou voire nécessaire de faire une installation en mode administrateur, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser le préfixe sudo qui permet de lancer une commande avec les privilèges de l'administrateur. Alors je passe à la diapo 10 justement pour vous présenter parmi les distributions Python quelques distributions qui sont connues comme WinPython, Canopy ou Anaconda. Et dans l'exemple d'Anaconda, qui est illustré sur la figure de la diapo 9, vous voyez justement l'intérêt, c'est que vous allez avoir bien entendu l'interpréteur Python qui va être installé avec le cercle vert de la bibliothèque standard et énormément de modules supplémentaires, dont effectivement Pilo, PQT4, PQT5, NumPy, SciPy, Matplotlib, etc. Il y en a des centaines, voire des milliers. À la limite d'ailleurs, l'inconvénient de la distribution Anaconda, c'est qu'elle pèse très lourd, hein, plusieurs gigaoctets à télécharger sur Internet. Et sur un PC pas très très en forme, avec un disque pas trop rapide, l'installation peut durer de longues 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 minutes. 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et si on se loupe dans l'installation qu'il faut désinstaller, on rajoute trois quarts d'heure, on réinstalle trois quarts d'heure. Et on peut passer comme ça des heures à installer, désinstaller Anaconda quand ça se passe pas bien du premier coup, ce qui est assez fréquent. Alors il y a une solution à ça, c'est d'utiliser en fait la distribution Miniconda. Comme son nom l'indique, c'est un Anaconda très très réduit. Et une fois qu'on a installé Miniconda, ben on a en gros la même chose que le download de python.org. On a l'interpréteur et les modules de la librairie standard. Et puis on peut utiliser la commande conda install à la place de pip install pour rajouter les modules dont on a besoin. C'est pas très difficile. Ça permet de customiser un petit peu les profils des modules qu'on veut installer en fonction du travail qu'on veut faire. Et ça permet de faire surtout quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder plus tard, qui est la création d'un environnement virtuel Python. Alors ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, en particulier avec l'avènement du machine learning et de l'intelligence artificielle qui est calculée sous Python. C'est de se faire un environnement dédié au projet qu'on travaille, qui est étanche, qui est stable, qui bouge pas, et on peut avoir comme ça plusieurs environnements virtuels indépendants les uns des autres, avec des versions des modules Python différents dans les différents environnements, et ça c'est quand même très 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 pratique. C'est de plus en plus utilisé. Alors bien sûr on peut se poser la question si Miniconda n'installe que la même chose que le download de python.org, à savoir l'interpréteur et les premiers modules de la bibliothèque standard, quel est l'intérêt d'utiliser Miniconda versus le download de python.org. Donc là, il y a quelque chose d'important qu'on aura l'occasion d'illustrer par la suite. C'est que le principal avantage d'Anaconda ou de Miniconda, c'est que le module NumPy et les modules de calcul scientifique sont linkés, en fait, sont liés avec une bibliothèque hyper optimisée qui s'appelle le Math Kernel Library. Donc c'est la bibliothèque de noyaux mathématiques qui est faite par Intel et qui permet d'avoir des calculs hyper rapides en algèbre linéaire, c'est-à-dire produit d'une matrice par un vecteur, produit de matrices entre elles, qui sont des opérations quand même très fréquentes en matière de calcul scientifique et de machine learning aussi. Et quand on veut vraiment avoir des performances avec Python, qui en tant que langage interprété est plutôt lent, il faut absolument avoir cette version optimisée de NumPy qui utilise le MKL. Et pour ça, Anaconda comme Miniconda sont des façons directes d'installer NumPy lié directement avec le MKL d'Intel. Sur la diapo 11, donc, on aborde maintenant l'installation de Python avec Miniconda. Si on va sur le site qui est indiqué par le lien en chocolat là, sur la diapo, on va voir plusieurs installateurs pour Windows, macOS X et Linux. Donc il suffit de choisir celui qui correspond à son système d'exploitation, en prenant soin quand même de sélectionner la version Python 3. Donc, actuellement, c'est Python 3.7. Alors la chose à laquelle il faut faire attention quand on installe Miniconda, ça fait l'objet de la diapo 12, premier alinéa, c'est d'utiliser vraiment un chemin d'installation du dossier Miniconda 3 qui ne comporte aucun espace ni caractère accentué. En général, c'est ce point-là qui fait que les installations ne marchent pas et que vous êtes obligé de réinstaller parce que sous Windows, le chemin d'installation quelque part contient votre nom et dans votre nom il y a peut-être des caractères accentués ou vous avez mis un espace ou voilà des choses comme ça. Donc ça, faut vraiment être très vigilant à cette question-là et quitte à créer un dossier spécial dans l'arborescence, il faut absolument que ce chemin soit exempt de tout caractère espace ou caractère accentué. L'installation de Miniconda est très rapide. Et une fois que c'est installé, qu'on soit sous macOS X dans un terminal ou avec la fenêtre Prompt Anaconda sous Windows, on a accès par exemple à la commande Conda Info qui montre des informations sur l'installation de Python via Conda. Alors une fois installé Miniconda, les impatients vont vouloir lancer rapidement l'interpréteur Python ou WePython. C'est ce qu'on va voir dans la diapo 13. Si vous êtes avec un système macOS X ou Linux, il suffit d'ouvrir un terminal et de taper la commande Python ou WePython. Et si vous êtes sous Windows, il faut lancer la fenêtre Prompt Anaconda et taper la commande Python ou WePython. À ce moment-là, vous avez l'interpréteur avec les trois chevrons dans le cas de Python et avec les mots-clés in et out dans le cas de ePython. Donc là, on peut taper des commandes et l'interpréteur fait son job. Quand on veut quitter l'interpréteur et qu'on est en mode caractère, comme ça, dans un terminal, si on est sous macOS X ou Linux, il suffit de taper CTRL D, qui veut dire fin de fichier, donc on sort de l'interpréteur Python. Et si on est sous Windows, ben, l'équivalent, c'est CTRL Z, qui veut dire fin de fichier aussi, sous Windows. Et on sort à ce moment-là de l'interpréteur sous Windows. Alors sur les diapos 14 et 15, on a des exemples d'affichage de terminal pour Linux, macOS X et Windows qui montrent effectivement bien les trois chevrons qu'on a quand on lance l'interpréteur Python dans un terminal, diapo 14. Et diapo 15, on voit les écrans qu'on a avec ePython, avec la cellule in qui attend qu'on tape une commande pour être interprétée par ePython. Alors, il reste maintenant à aborder la question des environnements de développement intégrés, ce qu'on appelle en anglais les Integrated Development Environment, les IDE. Le plus simple IDE qu'on puisse imaginer pour Python, il s'appelle IDLE. En général, il est livré avec les distributions Python, sans quoi, s'il n'y est pas, ben, il suffit de faire un pip install IDLE ou un conda install IDLE pour ajouter le module. Et c'est vraiment l'environnement le plus simple puisqu'il propose juste deux fenêtres, comme on peut le voir sur la diapo 16. Une fenêtre où on voit le travail de l'interpréteur Python avec les trois chevrons, et une autre fenêtre dans laquelle on a un éditeur ASCII pleine page qui permet d'éditer simplement des programmes Python avec la colorisation syntaxique. Et c'est un environnement de développement intégré parce qu'il offre un certain nombre de facilités. Par exemple, quand vous avez écrit un programme dans l'éditeur, il suffit d'appuyer sur la touche F5 et le programme est automatiquement envoyé à l'interpréteur Python. Et vous voyez dans la fenêtre où on voit le Python, qui s'appelle aussi le shell, on parle souvent du shell Python, et bien vous voyez le résultat de l'interprétation du fichier par l'interpréteur Python. Alors cet éditeur IDLE est tellement simple qu'il n'a pas les numéros de ligne et il n'a pas un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être utiles. Donc on installe souvent une extension d'IDLE qui s'appelle IDLEX. Vous pouvez passer à la diapo 17. Et là vous avez un exemple de fenêtre avec IDLEX. Alors IDLEX propose pas mal d'extensions outre les numéros de ligne. Il y a aussi l'ouverture de plusieurs fichiers dans des onglets. Et beaucoup de goodies, gestion du zoom avec contrôle plus molette, etc. C'est un paquet qui vaut le coup d'être installé. En général, on l'installe sur les machines avec la commande pip install IDLEX. Et puis après, on n'a plus qu'à faire un raccourci sur le bureau quand on est sous Windows sur l'exécutable IDLEX. Et à ce moment-là, on peut lancer l'environnement IDLEX qui est beaucoup plus agréable que IDLE. Alors à l'opposé d'IDLEX, diapo 18, vous avez Spider qui est un des IDE les plus complets, les plus complexes aussi. Parfois les gens se perdent dans les menus, les panneaux et les différentes méandres de Spider. Il propose énormément de fonctionnalités avec un débugger graphique, beaucoup de choses. C'est peut-être pas l'IDE par lequel commencer quand on débute sous Python. C'est peut-être plus sage d'aborder d'abord IDLEX. Enfin, il y a des gens qui jurent que par Spider, donc si vous voulez utiliser Spider, vous pouvez. Si par hasard il n'est pas présent dans votre distribution, ben, vous pouvez faire un pip install Spider ou un conda install Spider où vous recherchez les mots-clés sur Internet et vous allez trouver. Et quand Spider est lancé, vous avez un écran, diapo 19, qui, pour les utilisateurs de MATLAB, ben, va leur faire penser exactement à l'IDE MATLAB. C'est un copier-coller de ce qu'on peut trouver sous MATLAB. Donc c'est effectivement assez complexe comme IDE. Et pour terminer, on va parler de Jupyter Notebook. Alors Jupyter Notebook, c'est un IDE assez particulier parce que en fait, il est installé dans un navigateur web. Donc pour utiliser Jupyter Notebook, il faut avoir un navigateur web installé sur la machine, Firefox, Safari, Edge ou autre, Chromium, etc. Et quand on tape dans un terminal ou dans la fenêtre prompt Anaconda la commande Jupyter espace Notebook, ça ouvre un onglet dans le navigateur web et dans cet onglet, on a un point d'entrée qui va permettre d'ouvrir et de travailler des cahiers Python, ce qu'on appelle des notebooks. Donc un notebook, ça se présente comme une suite de cellules, puisque c'est avec du Python, on a donc des cellules d'entrée dans lesquelles on peut taper des commandes Python. On les fait interpréter par l'interpréteur en faisant Shift Entrée ou en cliquant sur une petite flèche qui permet d'exécuter une cellule. Et puis le résultat de l'interpréteur est affiché dans une cellule out. Alors le gros avantage des Jupyter Notebook, c'est que si on fait tracer des courbes par exemple, et bien les courbes sont incrustées dans le document. Donc c'est très joli, c'est très pratique. Contrairement à ce qui se passe quand on utilise un fichier .py et un IDE classique, où avec Matplotlib les tracés des fenêtres graphiques sont dans des pop-up windows. Ici, avec le cahier Jupyter Notebook, en fait, tout est incrusté dans le cahier, donc tout est toujours disponible. Et quand on ferme le cahier et qu'on le rouvre, on retrouve absolument tout le travail qu'on a pu faire. Donc c'est assez pratique. Et vous aurez une session où je vous ferai travailler directement avec le Jupyter Notebook. Voilà, pour finir cette introduction à Python, diapo 22, vous avez quelques références bibliographiques. Vous avez le document de Gérard Swinen Apprendre à programmer avec Python 3, qui est un bouquin complet, accessible légalement en téléchargement. Vous pouvez télécharger le PDF en cliquant sur le lien, qui est un livre qui est fait avec beaucoup de phrases. Donc ceux qui aiment lire de la littérature qui parle de Python, vous pourrez regarder ce document.